Piste du NPA dans le Vaucluse. Notre deuxième invité sera Abdellah Kachouri qui mène la liste socialiste en Seine-Saint-Denis. Rendez-vous avec Olivier Besancenot dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04, là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Il est bien ce préfet là, celui que j'ai entendu là dans l'émission de vendredi. Il est bien, hein, il est très très subtil. Réussir à nous faire un distinguo entre la reconduite à la frontière et l'expulsion, fallait le sortir quand même, hein, fallait le trouver. Je pense qu'il faudrait demander à la petite Marocaine qui a été renvoyée chez elle manu militari si elle fait bien la différence entre une expulsion et une reconduite à la frontière. C'est important pour elle, je pense. C'est bien triste, un préfet, c'est bien triste. En plus, ça raccroche au nez de journalistes qui ne sont pas spécialement agressives, mais qui posent uniquement des questions et qui énoncent des faits, rien que des faits, non contestés, non contestables. C'est bien les préfets, c'est bien. Et juste après, j'ai aimé l'émission avec tous les témoignages du goulag et tous les témoignages, et j'ai pas réussi à m'empêcher de faire un petit rapprochement entre les petits commissaires au peuple du stalinisme, toute proportion gardée, bien sûr, et puis notre bon préfet expulseur. C'était Frédéric à Amiens.
Oui, bonjour Daniel Mermet, bonjour l'équipe. Je suis indigné. J'ai honte en tant que Français d'entendre ce que j'entends là. De savoir que ce préfet reconduit à la frontière une gamine qui a commis aucun délit. Son seul délit, c'est de ne pas avoir une visa pour rentrer en France. C'est absolument invraisemblable. J'ai honte. Et en même temps, j'ai honte d'entendre ce type qui veut appliquer la loi, mais quand il a été condamné, il ne l'avait pas appliqué lui-même. Alors je veux dire, c'est invraisemblable. Là, j'entends des lire. Voilà. À bientôt. Merci.
J'étais très attentive à ce que disait Pascal Pascariello. Et le préfet du Puy-de-Dôme, ce monsieur dit que Salima avait vocation à... J'ai cherché, et en termes juridiques, avoir vocation à... signifie... ou du moins exprime que la personne dont il est question, donc Salima, réunit dès à présent l'ensemble des conditions pour faire valoir un droit déterminé. Alors ce monsieur qui aime appliquer la loi a peut-être besoin de revoir des fondamentaux en droit. Son droit déterminé à Salima, il va demander si elle en faisait valoir un. Et c'est vrai que ça aurait coûté beaucoup moins cher de lui donner un titre de séjour sans l'envoyer en avion dans un pays qu'elle ne connaît pas et où elle se sent perdue. Elle aurait eu moins peur. Elle n'eût pas été traitée de manière inhumaine. C'est terrible. Nous sommes au pays de l'indignité nationale. C'est maintenant, hélas, connu. Alors, ironie du sort, il se trouve que hier soir à Toulouse, à la Cinémathèque, était diffusé Le chagrin et la pitié d'Ophuls. Ça se passe à Clermont-Ferrand, essentiellement. Et à Clermont-Ferrand, il y a des gens qui ne se souvenaient pas en 1969 que des juifs, des non-juifs, des syndicalistes, des paysans, des femmes, des jeunes, des vieux, avaient été expulsés. Ils n'avaient pas non plus vocation à être expulsés. Drôle d'époque, ça fait frémir. J'ai bien envie de dire que moi, désormais, je pense que j'ai vocation à, mais à faire valoir les droits des autres parce que eh bien, plus les autres auront de droits et plus j'en aurai moi-même. À bientôt.
Le repère du Pays d'Aix se réunit tout le deuxième et quatrième mardi du mois à partir de 19h30 au bar Le Festival en bas du cours Mirabeau. Alors si ce mardi vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence, venez nombreux nous rejoindre. Nous partagerons librement autour d'un verre nos idées sur l'intégration des immigrés. Puis en fin de réunion, nous choisirons ensemble, démocratiquement, le thème du prochain repère à mardi soir.
Bonjour, c'est Valérie Delain. J'étais plutôt enclin à voter NPA aux élections prochaines et futures, de par son discours sur le monde du travail et social, qui, je trouvais, était tout à fait en phase avec ce qui se passe actuellement. Voilà. Mais ce matin, en fait, j'ai entendu sur une chaîne d'infos que le NPA présenterait une personne voilée sur une liste régionale. Et là, je dois dire que machine arrière tout un. Non, monsieur Besancenot, on ne peut pas porter le voile et être féministe. C'est tout à fait contradictoire. Et non, on ne peut pas porter le voile et être laïque. Le voile n'est pas un accessoire de mode, mais bien l'affichage ostentatoire de l'appartenance à une religion. Il ne s'agit pas d'une discrète main de Fatma ou d'une discrète croix ou de quoi que ce soit porté autour du cou. Et la politique et la religion font bien des choses distinctes dans notre pays. La religion relève bien du privé et nous ne devons en aucun cas intervenir dans la vie politique et sociale. La laïcité est une composante essentielle de notre démocratie et elle ne doit s'arranger d'aucun compromis. J'ai bien peur que dans son obsession à contrer le gouvernement coûte que coûte, M. Besancenot de s'aventure sur des terrains bien glissants. Dommage.
Ouais, salut. Eh ben, voilà le Besson qui nous remet ça avec la burqa. Eh ben, il ferait mieux de leur dire merci aux musulmans, hein, parce que quand même, c'est un super bon fonds de commerce, hein. À l'approche des régionales, comme ça. Allez, si on lance un petit pseudo-débat nauséabond qui pue bien, qui nous rejaillira dessus à tous. Enfin, voilà, moi, la burqa, ben, ouais, ça me gêne, hein, c'est sûr. Le foulard aussi, ça me gêne, d'ailleurs, en tant que femme. Même, ça m'agresse, je dirais. Mais il y a un autre truc qui me gêne aussi, et là, j'ai pas entendu Besson ouvrir sa gueule. C'est les rassemblements anti-avortement. Ça, ça me gêne. Ça me réveille la nuit, même, tellement que ça me gêne. Eh ben là, personne. Là, il n'y a personne. Là, les médias, ils font pas les titres avec ça. Puis il y a un autre truc aussi qui me gêne aussi vachement. C'est les gamines de 13-14 ans sur les affiches en 4x4, là. Avec des slogans à la con, transformés en objets, avec la tête coupée pour vendre de la lingerie, pour vendre des bagnoles, pour vendre du fromage, pour vendre de ce qu'on veut. Ça, ça me gêne. Putain, ça me gêne. Qu'est-ce que ça me gêne en tant que femme? Bah là, c'est pareil, il n'y a personne. Et puis tiens, c'est bizarre aussi parce qu'en tant que salarié, on gagne 30% de moins. Ça n'a jamais changé, on est en 2009 pourtant. Ça, ça me gêne. Mais là, pareil, silence radio, silence télé, silence média. Je vous embrasse.
You can't be neutral in a moving train. La phrase fameuse de Howard Zinn, vous ne pouvez pas être neutre dans un train en marche, ouvre cette émission aujourd'hui, en avril dernier à Boston avec Give, en que t'il nous avons eu fait de longs entretiens avec l'historien américain Howard Zinn, qui, vous le savez, nous a quittés il y a quelque temps. Il était l'auteur, faut-il le rappeler, et pourquoi pas le rappeler, de l'histoire populaire des États-Unis, qui, c'est une chose qui se dit à chaque fois qu'on évoque ce livre, a changé le regard des Américains sur eux-mêmes et par la même occasion, eh bien, de nous sur les États-Unis, sur l'histoire et l'image des États-Unis. Pourquoi ? Parce que Howard Zinn a choisi de raconter les choses, eh bien, par l'autre côté, c'est-à-dire par le bas, par les gens, par la vie, tout simplement. Aujourd'hui, on va le retrouver dans ses entretiens qu'il nous avait accordés, c'était très joyeux, à Boston, et il va nous raconter sa vie, d'où lui viennent ses idées, d'où lui vient ce regard, comment est-il arrivé à ce travail. Alors voilà, vous avez compris, on est revenu de l'Amérique, l'Amérique, mais cette fois l'Amérique centrale. On était au Honduras, on était au Salvador. Dans les jours prochains, on vous racontera tout ce que nous avons découvert et qui nous a surpris ou enchanté ou scandalisé avec Antoine Chao. Mais en rentrant, on était quand même un peu impatients de retrouver notre pays. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la grippe H1N1 a fini de décimer la population? Est-ce que les soldes sont terminés? Est-ce qu'enfin le nouveau chef-d'œuvre de BHL est sorti? Rien de tout ça, un petit peu comme les habitants du Honduras au cours de ces derniers mois, on a découvert que la France était rentrée en résistance. Et en résistance contre quoi ? Contre le chômage, contre la précarité, contre les inégalités, contre l'exploitation des sans-papiers, la misère des quartiers, la politique de l'immigration. Non, pas du tout. En résistance contre le voile. Et oui, nouvelle crise contre le voile en France. Les boucliers sont levés, les étendards sont dressés, les gousses d'ail sont épluchées contre la nouvelle sorcière de Salem. La patrie est en danger. Les croisés de la laïcité sont remontés sur leur blanc d'estrier, dressant les étendards des grandes valeurs républicaines, des grandes valeurs laïques et de la liberté de la femme. Même si d'ordinaire, au fond, les bonnes femmes, ils s'en foutent. La laïcité, oui, mais en condition que je puisse mettre mon gamin dans une école libre, c'est-à-dire catho, et puis les valeurs de la République, c'est du blabla. Sauf que là, quand il voit le voile, alors là, impossible de les tenir, surtout le petit monde politico-médiatique qui monte sur ses ergots, gaulois, sabreaux clairs. Tous les petits maîtres à penser sortent de chez Lip sans même finir leur dessert et montent au créneau pour défendre la forteresse de la laïcité, de la République et l'avilissement de la femme par ces barbares qu'il s'agit de combattre. Ça dure depuis 20 ans et depuis 20 ans, peu à peu, on a fini par identifier ces bouffées délirantes. On leur a donné un nom, islamophobie. C'est une forme de racisme qui très souvent s'ignore, tellement il est banal, et aussi une forme de racisme très répandue dans la bonne société. Le racisme, c'est les prolos, les électeurs de Le Pen, les beaufs, les Dupont-Lajoie, etc. Mais pas nous, bien évidemment, nous, on sait se conduire. Eh bien, voilà qu'à travers le voile, à peine voilé, est apparu ce racisme-là, celui des bonnes gens, de la bonne classe moyenne, des bobos bien pensants de gauche et de droite. Est-ce que ça signifie que tous ceux qui s'indignent contre le voile aujourd'hui sont des racistes invétérés? Certains, sans doute, mais il y a aussi l'opportunisme. Dans le monde médiatique et politique, on sait que le créneau islamophobe, ça marche à tous les coups, c'est le buzz garanti. Dénoncer une gamine voilée dans un collège du Tarn-et-Garonne fait de vous un chevalier blanc. Dénoncer ceux qui ne tolèrent pas les caricatures islamistes fait de vous l'égal de Jean Moulin. Tout le beau monde applaudit votre courage. Dehors les sarrasins, à bas les barbares, à mort les maures. Et puis au passage, vous caressez les bas instincts des masses comme on caresse le cul d'une vache dans une campagne électorale. Mais cette fois, qu'est-ce qui nous vaut cette nouvelle entrée en transe contre le voile islamique? Eh bien, vous le savez, sur 1000 candidats présentés à travers le pays pour les élections régionales des 14 et 21 mars, le NPA du Vaucluse présente une jeune femme de 22 ans, étudiante, trésorière départementale de son parti, Ilham Moussaïd. Cette jeune femme porte le voile islamique et elle précise qu'elle ne le porte pas à l'université ni dans son emploi, qui est un emploi proche du public. Elle précise sur TF1 « Je ne suis pas soumise, je ne suis pas opprimée par le voile, je suis une citoyenne à part entière. » Mais vous savez, ces gens-là, il ne faut pas trop les croire. Elle explique encore « Je voudrais donner une voix aux hommes et aux femmes issus des quartiers populaires dans ce combat général qui est de lutter contre le capitalisme et de proposer une alternative. » Oui, mais elle a quand même un voile. Elle dit encore, dans ce parti, il y a une majorité de non-croyants. Il y a aussi des croyants de différentes religions. La seule différence avec moi, c'est que c'est visible. Maintenant, dans cette atmosphère d'islamophobie que M. Sarkozy et M. Besson développent et qui vise justement à nous diviser, je pense qu'il est plus important de s'unir pour une vraie gauche, c'est-à-dire pour une gauche qui interdit le licenciement, pour une gauche qui défend le féminisme, qui défend l'internationalisme. Au fond, le sens de ma candidature sur cette liste est de donner une voix dans ce parti aux hommes et aux femmes des quartiers populaires. Elle le dit partout, vous pouvez écouter, la réécouter, la voir sur Internet. Eh bien, ça sert à rien. Tout ça ne sert absolument à rien. Tout le monde s'accorde, de Jean-Paul Huchon à Xavier Bertrand. Ils sont d'accord, c'est une provocation. Besancenot est un imposteur. Pour Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, et qui exigeait il y a peu que les jeunes musulmans ne portent pas leur casquette de travers, c'est un coup médiatique contre les valeurs de la République. Et tous et toutes demandent à ONPA et à cette jeune fille notamment, de relire Karl Marx, voire même de relire Trotsky, carrément, on en est là. Alors, c'est quelque chose de formidable. Je vous conseille, non, il faut quand même qu'on aille voir Howard, mais je vous conseille, dans le genre absolument délirant, de lire l'édito de Marianne de ce mois-ci. C'est absolument formidable. L'auteur de ce, le journaliste qui a écrit cet éditorial a passé 20 ans à la tête de la rédaction du Figaro. Et lui aussi conseille de lire Trotsky, fait l'éloge des femmes trotskistes qui ont été des pionnières du féminisme. Et il oppose bien évidemment à ce trotskisme héroïque, on ne savait pas, celui d'aujourd'hui. Mais après, il fait tout un jeu d'amalgame confusionnel mais, et tel un vrai Tarzan de la pensée, de liane en liane, il arrive de ce voile au lien qui existe bien évidemment entre la gauche de gauche et l'islamisme, à l'islamo-progressisme et à l'islamo-trotskisme. Voilà, il n'y a plus qu'un pas pour arriver à l'islamo-fascisme. Il ne le franchit pas, mais il le suggère. Et puis, il fustige, stigmatise l'anti-israélisme. C'est-à-dire, vous l'avez compris, oui, l'anti-israélisme, c'est très proche de l'antisémitisme. Tout ça pour 50 centimètres carrés de tissu sur la tête d'une jeune femme dans le Vaucluse. Voilà. Howard Zinn, You Can't Be Neutral in a Moving Train. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Homme, femme, jeune, vieux, petit, grand, gros, maigre, beau, laid, barbu, imberbe, musclé, chétif, noir, blanc, rouge, vert, jaune ou bleu, contre les discriminations, rejoignez tous ce soir les amis de La Basse et J'y suis, de Lille et de Cambrai, à 20h, Café Repère, l'imaginaire dans le Vieux-Lille. À ce soir.
Un débat devrait avoir lieu à propos de la loi du sol et de la loi du sang, car le problème encore aujourd'hui semble ne pas pouvoir être résolu. Je suis fille d'immigrés italiens. En 58, bien que née sur le sol français, j'ai dû à la dernière minute fournir au rectorat un extrait de naissance afin de me présenter aux épreuves du baccalauréat. Ma mère aujourd'hui a 93 ans. Elle est naturalisée française. Elle a récemment renoncé à faire renouveler sa carte d'identité car c'était pour elle le parcours du combattant. C'était Michaela, à Cabris-en-Provence. Merci.
Bonjour à tous, à toute l'équipe et aux AMG. C'est Eliane du Repère de Bayonne, Pays Basque, Sud-Lande. Voilà, alors le prochain repère pour nous, c'est ce mercredi, le 12e mercredi du mois. Nous nous retrouvons au Trinquet Saint-André, au Petit Bayonne. Il se passe beaucoup de mobilisation au Pays Basque en ce moment et nous allons pouvoir réfléchir à ce que veut dire penser global et agir local. Et puis nous allons pouvoir échanger aussi sur la coordination qui se met en place entre les repères, parce que c'est une idée qui me plaît bien et que je vais mettre en débat. Et pourquoi pas, nous allons voir comment nous allons pouvoir contribuer à cette coordination. Et bien sûr, nous ferons aussi le vide-sac habituel, celui que les AMG de Bayonne aiment beaucoup, celui de toutes nos révoltes. Alors, à bientôt.
Bonjour à tous. Le prochain repère des AMG de Montreuil-sous-Bois aura lieu mercredi 10 février à 19h au 14 rue du Capitaine Dreyfus, rue piétonne, métro Croix de Chavaux, à la pizzeria bar, qu'on se le dise.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. C'est Toumani du collectif de travail sans papier de Vitry. Grâce à ce répondeur, on a eu la visite du dessinateur Brooke pour notre réveillon de la nouvelle année. Vous pouvez aller sur le blog de Brooke ou sur le site de Politis pour nous y voir. Le 19 octobre, nous avons occupé le centre des impôts de Vitry, expulsé le soir même. Nous avons occupé le trottoir pendant presque 3 mois, le 14 janvier. Les CRS nous ont évacués sur l'ordre du préfet de Val-de-Marne, mais la lutte continue à Vitry comme ailleurs. Samedi 13 février, on organise une fête de 10h à 16h à Gare au Théâtre, derrière la gare centrale RERC, arrêt Vitry-sur-Seine. Il y aura un petit film sur notre lutte, suivi d'un débat, de la bouffe, un concert de reggae avec Zion Angels et une représentation du théâtre de l'opprimé. Les sans-papiers vous y attendent nombreux à samedi.
I grew up in a working class family. I went to work in a shipyard at the age of 18, worked there for 3 years. Then I enlisted in the Air Force, became a bombardier in World War II. And after the war, I went to college under the GI Bill of Rights. My first teaching job was at Spelman College in Atlanta, Georgia, a college for black women. And I became involved in the struggle in the South against racial segregation.
my students kept asking me if I knew of a book that offered a different view, a radical view, a critical view of American history. My name is Howard Zinn, and I wrote A People's History of the United States.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, j'y suis avec Guy Van Til, Howard Zinn, les huîtres Tabasco.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Howard Zinn, on est très content. Moi, je suis très content de vous retrouver ici, à Boston.
Non, moi aussi.
Et alors, on est dans votre bureau, à l'université, et il y a presque, enfin, il n'y a pas toute votre vie dans le bureau, mais si on regarde, il y a quand même beaucoup de choses qui concernent votre vie, il y a beaucoup de choses qui concernent votre œuvre. Ça nous amène presque à commencer cette interview maintenant et à vous poser la question que vous adorez poser aux gens. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à penser ce que vous pensez? Et ça revient, et ça, c'est cette question-là, bien sûr, elle revient à vous demander d'évoquer un peu vos origines, votre jeunesse, l'enfance à Brooklyn, les restaurants où vous serviez pour le premier de l'an avec un smoking trop petit parce que votre père était trop petit et que vous mettiez le smoking de votre père pour servir les soirs de Nouvel An. C'est pas mal de commencer par nous raconter ça pour nous faire comprendre d'où viennent vos idées, parce que vos idées viennent évidemment de votre vie.
I would like to know myself how come I am the man that I am.
J'aimerais bien le savoir moi-même d'ailleurs, comment je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui.
But I think we all try to understand how we became what we are. You know, we all try to figure out why we are thinking this way.
Mais c'est toujours qu'une question qu'on se pose sur soi-même. Comment je suis devenu ce que je suis? Comment se fait-il que je pense comme je pense?
Because sometimes we find that there are people who went through some of the same experiences and yet they think differently than us.
Parce qu'on voit des gens, on croise des gens qui ont traversé les mêmes expériences que nous et pourtant qui n'en tirent pas les mêmes conclusions.
But I'm sure that my growing up in a working class family of Jewish immigrants and seeing my mother and father work very hard, struggling, and people around me also working very hard, struggling. I'm sure that gave me a certain class consciousness.
Mais je pense que d'abord j'ai eu cette espèce de conscience de classe qui est venue du fait d'avoir grandi dans une pauvre famille d'émigrants juifs qui faisaient partie de la working class, des ouvriers qui travaillaient difficilement pour joindre les deux bouts. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué et qui m'a donné dès le départ cette conscience de classe.
I can't believe you're doing this.
The traffic lights weren't working, snarling traffic in and around the Miami area. More than 3 million people lost electricity after a fire at a transmission center.
Un goût d'huître Tabasco, voilà le souvenir que nous garderons avec Guy et Olivier de cette rencontre au mois d'avril dernier avec Howard Zinn à Boston. Pourquoi les huîtres Tabasco? C'est parce que c'est ce qu'il a. Il a commandé au restaurant, il nous a emmené déjeuner à midi dans sa voiture à 87 ans. Il fonçait dans les rues de Boston jusqu'à ce restaurant avec l'assurance du pilote qu'il fut, pilote de bombardier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pilote de bombardier, oui, il va évoquer ces moments de sa vie qui ont été décisifs pour lui. Il a souvent raconté sa vie. Il a, à travers un récit autobiographique, l'impossible neutralité, il a raconté un peu les moments, les initiations, les moments forts, les moments où il a compris quelque chose de son existence et de l'existence. Howard Zinn, à la différence, par exemple, de son vieux copain Noam Chomsky, a vécu, a travaillé, était un prolo avant de d'écrire. Il a eu la courtoisie de vivre et d'expérimenter beaucoup de choses dans sa vie. Ce livre, je l'ai fait de moi-même, de ma vie et de mon cœur. Il est sorti de mon expérience, bien plus que de mon étude. Je l'ai tiré de mon observation, de mes rapports d'amitié, de voisinage. Je l'ai ramassé sur les routes. Enfin, pour connaître la vie du peuple, ses travaux, ses souffrances, il me suffisait d'interroger mes souvenirs. Non, là, c'est pas Howard Zinn qui parle, c'est Jules Michelet. Jules Michelet qui écrit à Edgar Quinet quand il publie Le Peuple. Voilà, il y a comme ça des historiens qui racontent l'histoire par l'autre côté, par le côté du peuple, par le bas, c'est-à-dire par la majorité. Howard Zinn est un enfant de la working class, de la classe ouvrière, de la classe populaire américaine, de New York, et il n'a pas oublié son origine. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont d'origine modeste et populaire, parce qu'alors, s'ils avaient gardé la conscience, la claire conscience de leur origine de dominer, alors le monde aurait déjà basculé. La plupart oublient ça et grimpent, se débrouillent pour grimper dans la société et épouser le modèle dominant. Ça n'a pas été le cas de Howard Zinn. Il a refusé ce modèle dominant, il a lutté de toutes ses forces contre le domaine dominant, contre le modèle dominant, tout en restant populaire. Et c'est ça son génie particulier, c'est qu'il a réussi à s'exprimer, à écrire, à la fois d'une façon très savante, parce que son livre principal, L'histoire populaire des États-Unis, évidemment fait appel à des connaissances, à des recherches extrêmement poussées, mais en même temps sous une forme populaire, si populaire que cet ouvrage a été un best-seller aux États-Unis, et on le dit et on le répète, mais il faut encore le dire et le répéter, le travail de Howard Zinn a permis aux États-Unis, aux Américains, de changer le regard sur eux-mêmes. Bruce Springsteen, par exemple, dit que le travail de Zinn a changé tout son travail, son écriture de chanteur et de poète, notamment à travers un album qui s'appelle Nebraska. Et d'autres, beaucoup d'autres à travers les États-Unis ont découvert leur histoire à travers ce bouquin. À nous maintenant de changer notre histoire, notre regard sur l'histoire des États-Unis. Ici, il y a toujours un vieux conflit entre les pro-américains et les anti-américains. C'est les vieux conflits de la guerre froide qui nous permettent d'ignorer la vérité. Bien évidemment que il y a aux États-Unis des gens comme Howard Zinn, beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense et qu'on ne le suggère, et il y en eut beaucoup dans ces États-Unis, de la jeunesse de Howard Zinn. Dans les années d'avant-guerre, on évoquera la grande récession, on évoquera ses luttes contre le fascisme à travers des figures qu'il aimait particulièrement, comme celle de Wally Guthrie ou de gens comme ceux-là. Howard Zinn, dans ses livres et dans ce livre sur sa vie, L'impossible de neutralité, montre comment apparaissent, je cite, à partir des plus légers mouvements d'indignation, des échos assourdis de la protestation et au milieu des signes diffus de résistance, les présages de l'exaltation du changement. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Howard Zinn, un goût d'huître au Tabasco. Thank you.
My father was from the Austro-Hungarian Empire. And probably the Polish part of the Austro-Hungarian Empire.
Mon père venait de l'Empire, la partie polonaise de l'Empire austro-hongrois.
My mother came from Siberia.
Ma mère, elle, venait de Sibérie.
De Irkoutsk. Irkoutsk en Sibérie.
Yes. And they came here and they met as factory workers in New York.
Ils sont venus ici et se sont rencontrés dans l'usine comme des ouvriers à New York.
And so I grew up experiencing the depression in the early 1930s.
Et donc, quand j'ai grandi, c'était le choc de la Grande Dépression des années 30.
Yeah. We lived in different places all the time because we could not pay the rent.
On déménageait tout le temps, on changeait tout le temps de logement parce qu'on n'avait pas assez pour payer le loyer.
I would come home sometime from school. I would find the house dark because we could not pay the electric bill.
Parfois, je rentrais de l'école et je trouvais la maison dans l'obscurité parce qu'on n'avait pas de quoi payer la facture d'électricité.
The condition of my family was the way I experienced the economic crisis. I had no larger view of what was happening in the country or the world. I just saw what was happening right around me. And right around me, I saw people struggling, people evicted from their homes, people without work.
En fait, c'est sur ma famille que je voyais les conséquences de la crise. Je n'avais pas une vision large de ce qui se passait, mais c'est sur ceux qui nous entouraient, sur notre quartier, sur les gens qui se faisaient évacuer de chez eux, qui avaient leur mobilier sur le trottoir. C'est à ça que je voyais comment se manifestait la crise.
Yeah. My father was a waiter, and there was less work for him when the economic crisis came. So he had to take different jobs. He worked as a window cleaner. On the street, selling neckties on the street.
Mon père, à l'origine, il était serveur. Mais comme il y avait la crise, il a dû prendre plusieurs boulots en même temps. C'est-à-dire, il faisait le serveur, mais aussi il a vendu des cravates dans la rue. Et il avait aussi les vitres.
À partir de quand votre conscience de classe s'est affirmée, s'est confirmée? Parce que votre histoire, l'histoire de vos idées, part de votre expérience personnelle, familiale. À partir de quand vous allez ancrer vos idées dans une articulation plus large. Vous racontez dans vos souvenirs que vous participez à une manifestation à New York, et là vous prenez un premier coup sur la tête. Et là, c'est peut-être là que commence la vraie conscience de classe.
Well, yeah, but you know, as I was growing up and 17 years old and so on, I encountered these young radicals in my neighborhood, probably young communists in my neighborhood.
Alors que je grandissais, que j'avais à peu près 17 ans, je rencontrais tous ceux qui s'activaient, tous ces activistes et militants dans mon quartier qui étaient entre autres communistes, qui étaient dans le quartier.
And they took me to this demonstration in Times Square.
Et ils m'ont emmené à cette manifestation sur Times Square.
And I had never been to a demonstration.
J'avais jamais été à une manifestation.
Wasn't even sure what the demonstration was about.
Et je n'étais même pas sûr de quel était le motif de cette manifestation, la raison.
But there were all these people carrying signs, you see, and marching through Times Square, and I saw the word peace, no war. That was okay.
Mais je voyais tous ces gens avec des pancartes qui défilaient dans la rue dans Times Square, et puis je voyais, ils reconnaissaient les mots paix, pas de guerre. Moi, ça m'allait.
And then when I heard the sirens, I thought, oh, there must be a fire somewhere around.
Et quand j'ai entendu les sirènes, je me suis dit, c'est peut-être un incendie qui apparaît ici.
But it was the police, and they were coming, and they were going into the crowd, and they were hitting people.
Mais c'était la police qui fonçait et qui cognait sur la foule.
They were on horses. Some of them were on horses, and they were knocking people down.
Certains étaient à cheval, et depuis leur cheval, ils cognaient sur les manifestants.
And then I was hit by a...
Un pile poil, ça ne veut pas mieux tomber.
I was hit by a television light.
Et c'est là que je me suis pris une lumière de télé sur la tête.
Ça, c'est l'illustration.
Ouais.
Bien joué. Bravo. Spielberg. Donc là, vous avez pris un coup sur la tête.
Yeah. Yeah, I actually was knocked unconscious.
Mais à vrai dire, j'étais assommé.
I woke up in a hallway, who knows how much later. And when I woke up, Times Square was totally as it was before the demonstration. It was as if nothing had happened.
Et je me suis réveillé dans une espèce de corridor, je ne sais pas combien de temps après, mais quand je me suis réveillé, quand j'ai repris conscience, Times Square était exactement comme avant, comme s'il ne s'était rien passé.
But the experience had a profound effect on my thinking.
Mais cette expérience a vraiment été très importante sur ma manière de penser.
Because I suddenly realized that what these radical friends had been saying to me seemed to be true.
Parce que je me suis aperçu que tout ce que mes amis activistes me disaient, bah, ça avait l'air d'être vrai.
Ideas which were foreign to me, like the state, the government is not neutral. The government is on the side of the privileged class.
Des idées qui me paraissaient pas évidentes au départ, à savoir par exemple que l'État, le gouvernement, n'est pas neutre, mais il est du côté des privilèges de la classe dominante.
You know, I grew up with this naive idea that in America you can march through the streets, you can hold up signs, you can demonstrate peacefully because it was a peaceful demonstration, and that is okay because this is a democracy, and that. What I saw that night in Times Square said, "No, there's something wrong with that."
Moi, j'avais grandi naïvement avec ce qu'on nous apprend sur les États-Unis, la liberté d'expression, le droit de s'exprimer librement. Et ce que j'ai appris, et ce que j'ai vu cette fois-ci à Times Square, c'était qu'il n'y avait rien de tel.
Oui, ce qu'on a découvert avec étonnement dans votre livre sur l'histoire populaire des États-Unis, c'est cette époque précisément qui suit la Grande Dépression à partir de 29. Toutes ces successions de luttes, de grèves immenses à travers tous les États-Unis, souvent qui échappent aux syndicats, qui précèdent les syndicats, et c'est par milliers, par dizaines de milliers que les travailleurs se mettent en grève, parfois de façon violente, il y a des affrontements. On est très souvent à deux doigts de la guerre civile. C'est quand même dans cette époque-là que vous avez grandi.
Yes, yes.
La succession d'événements, la chronologie que vous donnez des années 30, c'est inconnu en France.
You know, I suspect that the people in France know the 30s the way most Americans learn about the 30s. Roosevelt, the New Deal, reforms. But what they don't know, Europeans don't know this, and Americans don't know this, that Roosevelt's reforms were to a great extent the result of the agitation in the country.
Ce que les Français connaissent du New Deal, je pense, recoupe à peu près ce que les Américains moyens connaissent du New Deal, de la crise des années 30, c'est-à-dire la grande crise, Roosevelt qui arrive, qui propose son New Deal pour arranger ça. Mais simplement, ce que ne savent pas beaucoup d'Américains aujourd'hui, c'est comment toutes ces réformes ont été arrachées par les mobilisations.
And when Roosevelt came into office, there were strikes all over the country. There was a general strike in San Francisco, a general strike in Minneapolis. Strikes of hundreds of thousands of textile workers in the South.
Et quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, il y avait des grèves générales un peu partout dans le pays, chez les ouvriers textiles, à San Francisco, aussi,
Minneapolis.
À Minneapolis, des grèves à peu près partout.
So Roosevelt faced all these strikes, and he also faced community organizations, unemployed councils, tenants organizations. There was turmoil all over the country.
Et il y avait cette espèce de mouvement d'agitation à peu près partout dans le pays. Et Roosevelt devrait non seulement faire face à ces mouvements de grévistes, mais aussi ceux des organisations de résidents, et ceux aussi de tous les différents groupes de la société qui se bougeaient.
This was the atmosphere in which the New Deal reforms were passed.
Et c'est dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là, que les réformes du New Deal ont été votées.
La guerre d'Espagne a beaucoup compté pour toute une génération de jeunes Américains. On a oublié ce que fut la brigade Abraham Lincoln. 5000 jeunes des États-Unis ont rejoint les brigades internationales en Espagne pour lutter contre le franquisme et contre le fascisme. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces 5000 des brigades, notamment Lincoln, venaient du Parti communiste, de la Young Communist League également, et étaient des Wobblies, c'est-à-dire des membres du IWW, ce syndicat ouvrier américain. Et évidemment que dans sa jeunesse, dans son adolescence, Howard Zinn entendait parler de ces histoires et ça a contribué à sa formation et à son goût pour la lutte contre le fascisme.
«
On va revenir au New Deal et à cette époque-là, par la suite dans l'entretien. Mais là, je voudrais qu'on continue un peu à suivre votre vie. Vous faites tout un tas de boulots différents et à un moment, vous vous engagez dans l'armée.
At the age of 18, I went to work in a shipyard in the Brooklyn Navy Yard, working. But, you know, that tells you something about my background, because at the age of 18, I could not go to college. My parents did not have money to send me to college.
À l'âge de 18 ans, j'ai été travailler sur les chantiers navals à Brooklyn. Et ça raconte quelque chose sur là d'où je viens, parce que à 18 ans, je n'ai pas pu aller à l'université, car mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'y envoyer.
In my milieu, in my neighborhood, my working class culture, at the age of 18, kids did not go to college, they went to work, and so did I.
Et c'était comme ça que ça se passait dans mon quartier, dans mon milieu, dans la culture ouvrière. À 18 ans, on n'allait pas étudier, on allait bosser.
So it was the beginning of the war. And the war had just started in Europe. And then I worked several years in the Navy Yard, and I decided I wanted to enlist in the Air Force.
C'était donc au début de la guerre, qui venait juste de commencer en Europe. Et moi, j'ai travaillé quelques années sur ces chantiers navals, et puis j'ai décidé de m'engager dans l'armée de l'air.
Because I was reading, I was 17, 18, I was a young radical, I was reading about fascism in Europe. And so, it was the desire to join the struggle against fascism that I wanted to enter the military.
Je suis rentré dans l'armée vraiment par cette volonté de combattre le fascisme, parce qu'à 17-18 ans, je lisais au sujet du fascisme, je lisais au sujet de tout ce qui se passait en Europe.
Et donc, vous, c'est la raison pour laquelle vous vous engagez dans l'armée, dans l'aviation, dans l'US Air Force, c'est contre le fascisme.
Yes, absolutely.
Oui, c'est ça.
Et alors?
And then?
Vous voilà pilote de bombardier.
I was a bombardier. Is the person who sits in the nose of this heavy bomber and operates this bomb site to drop the bombs.
Moi, j'étais bombardier. C'est-à-dire, le bombardier, c'est celui qui est dans le nez de l'avion et qui permet de larguer les bombes.
Yeah. And so I was stationed in England, an air base in England, and we flew out over the continent.
Et donc notre base était en Angleterre, et depuis l'Angleterre, on survolait tout le continent européen.
And dropped bombs on cities in Germany, Hungary, Czechoslovakia.
On bombardait des villes en Allemagne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie.
And finally, in France. And this, to me, was very important and almost life-changing experience.
Et puis après, on est venu à bombarder la France. Et je pense que c'était l'expérience, ce bombardement qu'on a fait sur la France, c'était une expérience qui a modifié profondément ma vie. C'est ces moments où la vie bascule.
Because we thought the war was about to be over. It was about to be over. And we thought we would not fly any more bombing missions.
Parce qu'on était à la fin de la guerre, on pensait que c'en était fini sur les bombardements sur l'Europe.
Because we were 3 weeks away from the end of the war.
On n'était vraiment plus qu'à 3 semaines de la fin du conflit.
You know, the Russians and the Americans had already met on the Elbe, and we'd gone all through France into Germany.
Le front russe et le front allié s'étaient déjà rejoints sur l'Elbe. Les troupes américaines avaient traversé toute la France.
And then they woke us up one morning and said, "We're going to bomb this little town in France."
Et voilà qu'un matin, ils nous réveillent pour nous dire, "On va aller bombarder cette petite ville française."
Rouen. On the Atlantic coast of France, you know, not far from Bordeaux.
C'est Royan sur la côte atlantique, pas très loin de Bordeaux.
And it was puzzling. But why are we bombing a town in France when we had already gone through France, so we're into Germany? Well, there were several thousand German soldiers stationed near Royan.
Et pour moi, ça me posait des questions, ça m'intriguait. Pourquoi aller bombarder une ville française alors qu'on est déjà en Allemagne? Et pourtant, c'est parce qu'il y avait un camp...
Oh, sorry.
It's all right.
I forgot to turn it off.
J'aime bien, c'est toujours quand il y a un bombardement. Les interruptions sont très, très bien faites. La lampe tombe pour illustrer un coup sur la tête. Là, c'est les bombardements sur Royan. Ça tombe impeccablement.
Hello? Oh, I'm in the midst of an interview right now. Right. Yeah, interview and then lunch and then another interview. Yeah, I'll be here for hours, yeah.
Oh, well, so
maybe it won't work.
Have a good day, sir.
Okay. Let me shut this. Somebody, a radio station on the West Coast, wants to interview me right now. I'm sorry. Where were we? I was talking about the Royan and... So these German troops were not doing anything. They were just waiting for the war to end.
Et ces troupes allemandes qui étaient basées à Royan ne faisaient pas grand-chose. Ils attendaient juste la fin de la guerre.
But what is interesting to me now, and what became interesting to me after the war, was as we were being briefed, as we were being given our instructions about the bombing, nobody thought to question this. None of us stood up and asked, why are we bombing when the war is almost over?
Et ce qui m'est resté de cette expérience, qui m'a fait vraiment me poser des questions, c'est que quand on avait le briefing avant le bombardement, quand on nous donnait les instructions pour bombarder, personne ne s'est levé pour dire « Mais pourquoi on va faire ce bombardement alors que la guerre est presque finie ?» C'est quelque chose qui touchait à la mentalité des militaires.
Yeah. Just automatically follow orders, you see.
D'obéir aveuglément aux ordres.
Especially since they told us that we were going to drop on Royan a different kind of bomb. Not the usual demolition bomb, but as they called it, cylinders of jellied gasoline, was napalm.
D'autant qu'on nous a appris à ce moment-là, pendant ce briefing, que les bombes qu'on allait larguer sur Royan n'étaient pas les bombes habituelles qui détruisaient des édifices, mais c'était de l'essence gélifiée, ce qu'on appelle en fait le napalm.
You know, it was the first use of napalm in the European war.
C'était la première utilisation du napalm pendant les guerres en Europe.
Et le napalm a été utilisé par la suite, comme on sait, au Vietnam pendant des années avec les dégâts que l'on connaît. Quelle conclusion vous avez tirée de cette expérience? Est-ce que là, vous avez compris que dans votre volonté de vous engager pour lutter contre le fascisme, vous aviez été trompé?
I didn't see that at the time, but after the war, I began to think about all of that.
J'ai pas pensé tout de suite à l'époque, mais c'est après la guerre que j'ai commencé à réfléchir à tout ça.
Especially when I read about Hiroshima and Nagasaki.
En particulier quand j'ai lu à propos de ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki.
Because at the time the bomb was dropped on Hiroshima, I did not question it. Like everybody else, I thought, oh, this is a good thing. The war will be over.
En particulier parce qu'au moment où il y a eu les bombardements sur Hiroshima, moi, je me suis pas remis ça en question. Je me suis dit, oh, bah, c'est une bonne chose. Grâce à ça, la guerre va s'arrêter.
Because I had no idea what the atomic bomb did to human beings. I had no idea what it was like to be the victim of bombing. Because I had been bombing from 30,000 feet high, where you saw nobody, you did not see people screaming, children. And so killing in modern warfare can be totally antiseptic, clean cut.
C'est que tuer dans les guerres modernes, ça peut devenir complètement aseptique, complètement propre. Et tout ça parce que moi, la position que j'avais dans mon bombardier, c'est que j'étais à 30 000 pieds de hauteur et je n'avais qu'à larguer les bombes et je n'avais aucune perception, aucune vision, même aucune conscience des corps déchirés, des hurlements des populations et plus encore si c'était une bombe atomique.
But then I read John Hersey, the American journalist. I read his report on talking to the victims of Hiroshima.
Et après, j'ai lu sur un journaliste américain, John Hersey, qui avait fait un reportage où il était allé à la rencontre des victimes d'Hiroshima.
And then for the first time, I realized what bombing does to human beings.
Et c'est là où j'ai vu pour la première fois ce qu'un bombardement peut faire à des êtres humains.
Like play a peace title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me.
On an August morning, Hiroshima had no premonition of its fate. On Tinian Island in the Marianas, a B-29 named the Enola Gay prepared to make the first atomic bomb run. Over Hiroshima and Nagasaki, the course of world history took a new turn. The new weapon blasted the enemy completely out of the war. Japan no longer had the will to fight.
Mm-hmm. Uh-huh. stop it. Don't let them drop it. Stop it. Bebop it.
Charles Mingus, pour illustrer ce dialogue avec Howard Zinn, qui continue à dérouler l'histoire de sa vie et des moments charnières qui ont nourri ensuite son travail d'historien.
And when I read John Hersey's report, talking to the survivors, I for the first time understood what my bombs did to people below.
Et quand j'ai lu le reportage de John Hersey qui était allé parler aux survivants, à ceux qui avaient subi ce bombardement, pour la première fois, j'ai réalisé ce que mes propres bombardements avaient provoqué sur les populations.
20 years later, I visited Hiroshima and I was asked to speak to a group of survivors. They met regularly in some little survivor's house.
Et 20 ans après, je devais aller à Hiroshima, j'étais invité à Hiroshima pour parler devant un public de survivants, dans leur petit local des survivants du bombardement.
And when I got up to speak to them, and I looked out at them, and I saw these people who had arms missing or legs missing, or skin that you couldn't look at, I couldn't speak.
Et quand j'ai vu ces gens en face de moi, sans peau, sans membres, aveugles, j'arrivais plus à parler.
And after the war, I did some research into the bombing of Hiroshima, because everybody was saying it was necessary. We had to do this in order to win the war.
Et c'est pourquoi après la guerre, j'ai fait des recherches justement sur les raisons qui amenaient à son bombardement d'Hiroshima, parce que tout le monde disait c'était un mal nécessaire. Il fallait passer par là pour mettre fin à la guerre.
And my research made it clear to me that the bombing of Hiroshima, Nagasaki were not necessary to end the war.
Et c'est là que j'ai appris, c'est là que je me suis aperçu que le bombardement d'Hiroshima, comme celui de Nagasaki, n'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin de ça pour mettre fin à la guerre.
And there were other reasons, political reasons, for dropping the bomb, which did not have to do with winning the war, but with, you might say, winning the Cold War.
Et les raisons qui avaient présidé à ces bombardements n'avaient rien à voir avec la guerre. Ça avait plutôt à voir avec gagner la guerre froide qui s'annonçait déjà.
Because it seemed that we were anxious to drop the bomb before the Russians got into the war.
Puisque dans les raisons qui ont provoqué ces bombardements, c'était finir ce conflit avant que les Russes viennent sur ce front-là aussi.
To demonstrate our power to the Soviet Union.
Pour montrer notre puissance à l'Union soviétique.
Yeah. Because what I discovered in my research was the Japanese were on the verge of surrender, even if we had not dropped the bomb. The Japanese would have surrendered very soon.
Parce que ce que je me suis aperçu dans mes recherches, c'est que les Japonais étaient vraiment à deux doigts de capituler. En tout cas, la bombe n'était pas nécessaire pour les faire capituler. Ils étaient sur le point de le faire.
I mean, today we condemn terrorists because terrorists are willing to kill innocent people in order to achieve some objective of their own. We condemn them. But in World War II, we killed probably a million civilians in our bombing. And that's something I think that cannot be accepted.
Vous savez, on critique les terroristes aujourd'hui parce qu'ils tuent des civils innocents pour des objectifs supérieurs. Mais nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dû tuer plus d'un million de civils pour des raisons de guerre plus valables.
In other words, war is terrorism.
En d'autres termes, la guerre est le terrorisme.
Voilà, on retrouve Howard Zinn demain, traduction Guy Ventil, montage Catherine Pinto. Merci à Ambrivol. toute l'équipe de La Basse J'y suis, on la retrouvera demain. Je rappelle le numéro du répondeur de La Basse J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. À demain, 15h, pour la suite. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Ce type d'attaque s'est multiplié ces derniers mois. Plusieurs malfaiteurs ont lancé un 4-4 contre un distributeur de billets d'une agence de la Caisse d'épargne à Quincy-sous-Sénart dans l'Essonne. Attaque spectaculaire qui s'est produite en début d'après-midi. Une employée de la banque a été légèrement blessée. On ne sait pas si les malfaiteurs ont réussi à partir ou non avec des billets de banque. Ils ont mis le feu au véhicule avant de s'enfuir à bord d'une autre voiture. Le jeune détenu de 15 ans et demi qui avait fait une tentative de suicide jeudi dernier à la maison d'arrêt de Rouen a succombé ce week-end à ses blessures. Il était détenu dans le quartier des mineurs pour des actes de délinquance. La police soupçonne un groupuscule d'extrême droite dans la profanation de la future mosquée de Saint-Étienne. Une quinzaine d'inscriptions racistes et de références à l'époque nazie ont été découvertes sur les murs du bâtiment ce matin. Le Conseil français du culte musulman dénonce un acte odieux et demande au gouvernement qui planche actuellement sur le débat sur l'identité nationale de faire figurer parmi ses préconisations la mise en place d'une mission d'information parlementaire sur la montée de l'islamophobie en France. Depuis une heure maintenant, il planche donc sur les questions d'intégration et d'acquisition de la nationalité. 30 des 38 ministres participent au séminaire sur l'identité nationale à Matignon. Plusieurs décisions et grandes orientations devraient être annoncées par le Premier ministre François Fillon à l'issue de cette rencontre. Le contrat d'accueil et d'intégration auquel sont soumis les étrangers qui arrivent en France pourrait être renforcé. La maîtrise du français sera plus exigeante. Et selon le journal Le Monde, daté de demain, il pourrait être mentionné l'interdiction du port du voile intégral et des mutilations sexuelles. L'idée d'ouvrir les écoles à certains parents fait partie des projets. L'idée serait de proposer aux immigrés des cours de français notamment et de connaissances du milieu scolaire. Il a aussi été envisagé de faire chanter la Marseillaise une fois par an aux écoliers, mais l'on ne sait pas si cette mesure a été retenue. L'ensemble des décisions prises sera dévoilé en fin d'après-midi. Un incident électrique perturbe depuis plusieurs heures le trafic des TGV dans le sud-est. Gare de Lyon retrouve Virginie Salançon.
Toute la circulation des trains entre Lille et Marseille est perturbée. Au départ de Lyon, comptez 4 heures de retard pour rejoindre Aix-en-Provence, 3 heures de plus que d'habitude pour aller à Montpellier ou Marseille, et plus de 2 heures de retard pour le trajet Lyon-Paris. À la gare de Lyon-Pardieu, les voyageurs sont fatalistes et campent assis sur leur valise, les yeux fixés sur le tableau d'affichage. Ça ne sert à rien de râler, dit cette mère de famille, on prend notre mal en patience. En plus, ils ont mis un buffet à la disposition des voyageurs. D'après la SNCF, une équipe technique est en train de réparer ce fameux caténaire et une voie sur les deux a déjà été dégagée. La SNCF espère un retour à la normale dans la soirée.
Virginie Salançon, un déjeuner sous les ors de l'Élysée ce midi pour les handballeurs français, les champions d'Europe, invités par Nicolas Sarkozy. Nous avons été reçus de manière très simple, agréable et détendue, a dit à sa sortie le sélectionneur Claude Onesta.
Service public, Isabelle Giordano.
À l'occasion de la 10e journée mondiale sans téléphone portable, Service Public s'interroge. Peut-on vraiment vivre sans téléphone portable aujourd'hui? Et qui sont ceux qui ont fait le choix de ne pas avoir de mobile? Avec vos questions et vos réactions sur franceinter.com.
Service Public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi à 10h.
Bonjour, c'est Eva Bétan. Vous avez envie d'être jurée du Livre Inter, présidé cette année par Catherine Clément?
Je suis une ogresse en matière de livres. C'est aussi nécessaire que l'eau et le pain. Et bien sûr, il y a une part de créativité absolument considérable dans la lecture.
Alors écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures. Vous avez jusqu'au 19 février inclus pour proposer votre candidature. Livre Inter, France Inter, 75 220, Paris CEDEX 16. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, on retrouve Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon.
Musique.
Bonjour à tous. On en connaît des virtuoses et compositeurs italiens. Le nom souvent est en ni. Vivaldi, Corelli, Torelli, Nardini. Et puis, il y en a quelques-uns qu'on connaît moins, comme Dal Olio ou bien Stratico. Ben, Stratico, c'est très reposant, parce que souvent, on cherche des biographies. Mais là, on ne sait presque rien de lui, simplement qu'il a composé 156 sonates pour le violon, 61 concertos et 15 symphonies. On sait aussi qu'il faisait partie du cercle du grand Tartini à Padoue. Ben, c'est à peu près tout, et ça suffit pour goûter l'allegro assai de son concerto pour violon en sol mineur. Le final, Allegro assai, très rapide, mais pris de manière assez ample, vous l'avez entendu, par les interprètes. Donc, concerto pour violon en sol mineur de Michele Stratico, interprété par Giuliano Carmignola, violon baroque, avec le Venice Baroque Orchestra, dirigé par Andrea Marcone. Bon, on l'a cité, il fait beaucoup d'ombre aux autres. Voici Vivaldi, ses innombrables concertos et opéras qu'on a découverts sur le tard. Bah oui, mais il reste toujours vraiment dans le peloton de tête. Voici l'Allegro d'un concerto pour deux violon, violoncelle, cordes et basses continues. On va remarquer que Vivaldi, bien sûr violoniste, s'est aussi occupé de donner du grain à moudre aux autres instruments, et là, au violoncelle.
<t'->